Donc bonjour à tous, je me présente, je suis Pierre-Marie Jean, et je vais vous parler de jeux vidéo libres. Alors ceux qui se sont trompés de conférence, c'est le moment de sortir. Non, c'est bon, tout le monde est au courant. Très bien. Alors, donc je vais rapidement vous présenter un peu l'histoire du jeu vidéo libre, on va remonter même très très loin. Hein. Ensuite, je vais vous parler plus ou moins de où est-ce que vous pouvez trouver des jeux vidéo libres si vous avez envie de jouer, voilà, en sortant de la conférence. Mais aussi de tout ce qui de l'état des lieux actuels, enfin plus ou moins à quoi, quels sont les jeux qui existent et qu'est-ce qu'on a comme matériel sur le jeu vidéo libre. Donc je vais vous en présenter quelques jeux et aussi vous parler un peu du jeu vidéo libre indépendant, enfin, qui est quelque chose auquel je participe étant donné que je suis développeur sur un jeu vidéo libre indépendant. Voilà, et enfin on conclura un peu sur ce qu'il faut savoir pour développer un jeu vidéo libre, si ça vous intéresse. Voilà. Ça devrait marcher. Alors, qu'est-ce qu'un jeu vidéo libre? Quand je parle de logiciel libre, tout le monde comprend? Pas besoin de définir? J'en étais sûr. Alors, est-ce que quelqu'un peut me dire ce qu'est un jeu vidéo libre? Allez-y. Alors non, ça c'est un moteur libre. Non, une licence libre, ça suffit. Donc dans un jeu vidéo libre, on a le code source qui est sous licence libre. On a aussi les ressources qui sont sous licence libre, donc tout ce qui concerne tous les graphiques, tous les sons, toutes les images, voilà, ainsi de suite. Alors ça, c'est pas obligatoire. C'est juste du bonus. Voilà, c'est quand même mieux quand on est sur un jeu vidéo libre que les ressources soient dans un format libre. Si vous avez un gros blob, un morceau de musique en MP3, c'est quand même pas classe. C'est quand même toujours mieux d'avoir du OGG ou du FLAC, tant qu'à faire. Voilà. Ou c'est aussi important si vous voulez qu'il y ait des gens qui travaillent avec vous sur votre projet. Donc si par exemple vos modèles 3D sont faits avec Maya, bah c'est quand même difficile. Voilà, Maya, c'est un logiciel propriétaire, faut avoir la licence. C'est plus compliqué de participer à votre projet si c'est sous licence propriétaire. Voilà. Ensuite, on a les moteurs libres, qui sont un peu différents. Donc là, on a le code source sous licence libre, mais les ressources sont sous licence propriétaire. Donc il y a plusieurs choses là-dessus. Donc c'est un modèle de vente, en fait, c'est un modèle économique. Donc les sociétés fournissent le code source du moteur sous licence libre et vendent en fait tout ce qui est images. Voilà. Donc, en fait, quand on achète le jeu, on achète les images du jeu au final. Mais c'est aussi un autre mode. Ça permet de donner son moteur à la communauté, que la communauté fasse évoluer le moteur et que la société en bénéficie aussi. Donc c'est un peu étrange. Il y en a quelques-uns qui existent et dont un qui est très connu de moteur libre, qui est très utilisé en plus dans le logiciel libre. Voilà. Donc maintenant, je vais vous parler d'un peu d'histoire. D'après vous, quel est le premier jeu vidéo libre? Raté. Pas loin. Alors, on a dit Space War avant. Non, alors c'est OXO. Donc en fait, OXO, c'est donc le premier jeu vidéo, c'est OXO. Et donc en fait, OXO, la vidéo ne s'est pas lancée. J'en étais sûr. Voilà. Alors, OXO en fait a été créé en 1952, donc c'est en fait en même temps que c'est le premier jeu vidéo libre, c'est le premier jeu vidéo. Enfin, il est libre dans le sens où le code source, donc les fiches perforées, étaient disponibles. Mais il n'est pas vraiment libre parce que il ne tournait que sur un seul ordinateur, le EDSCAC de l'Université de Cambridge. Donc en fait, c'est A.S. Douglas qui l'a créé en 52 sur sa thèse sur l'IHM. Donc là, en fait, c'est une vidéo qui vous reconstitue à peu près comment ça marchait. Mais donc, globalement, vous avez ici des diodes qui représentent l'état de la mémoire vive, en direct, et un combiné téléphonique. Donc c'est un morpion, hein, tout simple. Donc, et vous rentrez, ça devrait se lancer. Voilà, vous allez voir la première présentation. Hop. Et si, pourquoi il tourne en boucle? Donc en fait, ça vous forme la grille du morpion, et quand vous appuyez sur une des touches du combiné téléphonique, c'est la case où vous jouez, donc les cases sont organisées 1, 2, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Voilà. Donc vous jouez comme ça. Donc, c'est le premier jeu vidéo, et le premier jeu vidéo est libre. On peut le dire, on peut en être fier, même s'il tournait que sur une seule machine qui remplissait un hangar. Voilà. Et on a aussi cité Space War, qui est en fait le premier, qui est le premier jeu vidéo libre à avoir eu une influence. Donc lui a été créé en 1961 par le club de modélisation de chemin de fer et on ne voit pas. Si, voilà. Donc voilà. Désolé pour la qualité des vidéos. Donc ça a été créé par le club de modélisation de chemin de fer du MIT en 1961 sur le PDP-1. Donc qui est une révolution dans le monde de l'informatique parce que c'était le premier ordinateur qu'on pouvait démarrer tout seul. On n'avait pas besoin d'être quatre pour le démarrer, c'était un miracle. Voilà, donc en fait ils l'ont créé pendant les heures où il n'était pas utilisé par l'université pour faire des recherches, donc de 23h à 7h du matin. Il est vraiment libre parce qu'il a une structure de création qui a été un peu plus ou moins itérative et communautaire. Donc en fait au début on avait juste deux vaisseaux qui doivent, en fait il y a deux vaisseaux, une réserve de carburant limitée, une réserve en missiles limitée, l'objectif c'est de détruire le vaisseau adverse. Voilà, donc ensuite, vous les voyez pas, mais normalement, il y a des étoiles dans le fond qui ont été rajoutées pour augmenter l'impression de vitesse. Et enfin, ils ont rajouté le petit point là, au milieu, que vous voyez très mal, qui est en fait une étoile qui attire les vaisseaux. Donc tout ça, tous ces éléments de gameplay ont été rajoutés au fur et à mesure qu'ils jouaient et qu'ils se rendaient compte qu'il y avait des problèmes. Donc ça a été un processus très itératif et donc un développement ouvert. Voilà. Ça a été un gros succès car il a été présenté aux journées portes ouvertes de MIT et donc l'ensemble des universités américaines ont installé Space War sur leur PDP-1, voilà, et ont continué à le faire évoluer. Donc c'est un jeu qui a eu un gros succès dans toutes les universités du monde et en fait la société commerciale qui vendait le PDP-1 a demandé l'autorisation de commercialiser le jeu Space War en échange de matériel au club de modélisation de chemin de fer. Donc en fait, il était libre et puis il est devenu propriétaire. Voilà. Et en fait, il était utilisé pour vérifier l'état de la RAM à la livraison. En fait, sur le PDP-1, quand on est dans l'ordinateur, la RAM ne s'efface pas. Enfin, ce qui fait office de RAM, hein, parce que c'était pas vraiment une. Donc en fait, il terminait le montage, il chargeait Space War dans la machine avec toutes les fiches. Puis une fois que c'était fini, ils éteignaient. Quand il livrait la machine, il la démarrait. S'il pouvait jouer, c'est qu'il n'y avait pas eu problème pendant le transport. Voilà. Mais ça a aussi été utilisé comme borne d'arcade. Donc c'est l'une des premières bornes d'arcade qui a eu un gros succès, mais qui malheureusement a été désinstallée au bout de 2 ans pour problème. En fait, c'était pas sur le PDP-1, c'est sur le PDP-11 que ça a été installé. Et en fait, la borne a subi des dommages irréparables et donc ils ont dû l'enlever. Mais un certain Nolan Bushnell a joué sur cette borne. Est-ce que vous savez qui est Nolan Bushnell? Voilà, c'est l'un des cofondateurs d'Atari et il a avoué que c'est parce qu'il avait joué à Space War qu'il avait voulu créer des jeux vidéo. Donc globalement, si Space War n'avait pas existé, on n'aurait pas connu le crack de 82 et on n'aurait pas enterré des cartouches IT dans le désert. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de l'énormité de la chose. Voilà. Donc après ce petit cours d'histoire qui montre évidemment que le logiciel libre a forgé l'industrie du jeu vidéo, je vais vous parler de où est-ce que vous pouvez en trouver. Donc il y a différentes ressources. Donc vous avez les ressources francophones. Donc vous avez Jeux Libres, qui est en fait jeulibre.net, qui est un site qui regroupe uniquement des jeux vidéo libres. Vous ne trouverez que des jeux vidéo libres là-bas. Il y a à peu près 1600 références. Voilà. Ensuite, vous avez Jeux Linux, le bot des Jeux Linux, Léa Linux, qui regroupe plus des logiciels, des jeux qui tournent sous Linux. Donc, il y a aussi des jeux, il y a des jeux propriétaires, il y a des moteurs de jeux propriétaires. Voilà. Il y a un peu de tout et de rien, mais ça tourne sous Linux. Voilà. Le bot des Jeux Linux a plus de 4000 références. Donc, voilà. Il y a quand même de quoi jouer sous Linux, hein. En fait, on peut jouer aux jeux vidéo. Voilà. Et ensuite, vous avez les ressources anglophones. Donc, vous avez Linux Game Database, qui est, en fait, une base de données de jeux vidéo sous Linux avec quelques jeux libres. Vous avez Libre Game Wiki qui en fait est un peu plus intéressant parce que dedans vous avez donc des jeux aussi, mais aussi des ressources sur voilà, les moteurs, des plus ou moins de comment créer un jeu, où est-ce que vous pouvez récupérer des ressources, comment il faut faire. Voilà, c'est un wiki généraliste sur le jeu vidéo libre. Voilà. Vous avez Game on Linux qui est un blog d'actualité sur le jeu vidéo sous Linux. Donc ça parle évidemment un peu de jeux vidéo libres. Et vous avez même, je ne sais pas si vous connaissez Twitch, après les récents problèmes qu'ont eu certains présentateurs télé après avoir critiqué les gens qui regardaient des gens jouer aux jeux vidéo. Vous avez dû en entendre parler. Et donc, il y a une équipe de streamers qui s'appelle Linux Gamecast, qui stream du jeu vidéo sous Linux, mais aussi du jeu vidéo libre, par conséquent. Voilà. Alors, il y a eu un petit problème entre Linux Gamecast et la Game on Linux. Donc, il y a eu des petites batailles d'ego. Et je sais pas si je dois en être triste ou en être heureux, parce que voilà, ces types de batailles d'ego n'arrivent que quand on commence à être trop nombreux et qu'on se bat pour le marché, quoi. Voilà, c'est quand on se bat pour récupérer de l'audience, c'est voilà, il y a plus assez d'audience. Donc je sais pas si on doit en être content ou pas que on en arrive à avoir des disputes entre les gens du même communauté. C'est un peu une question qui se pose, et c'est aussi de savoir si on commence pas à ressembler un peu aux jeux vidéo classiques. C'est pas forcément une bonne chose. Voilà. Donc, je vais vous présenter quelques jeux vidéo libres connus. Donc, pour ceux qui les connaissent déjà, je suis désolé, vous n'allez rien apprendre. Donc, voici Minetest. Donc, c'est un clone de Minecraft. Voilà. C'est un jeu sandbox, basé sur Minecraft. Il a bien de meilleures performances, tout simplement, parce qu'il est codé en C++ et pas en Java. Donc, par exemple, vous avez l'ensemble des, il y a une limitation du nombre de blocs possibles dans Minecraft. Eh ben, Minetest, ça n'existe pas. Il y a une limitation du nombre de joueurs sur un serveur, non plus. Voilà. Il est beaucoup plus performant. Il y a une distance d'affichage qui est plus importante. Il y a beaucoup plus de choses qui sont meilleures dans Minetest. Mais Minecraft est quand même toujours plus de joueurs. C'est un peu un problème. Enfin, un des défauts de Minetest, à mon avis, c'est qu'il n'y a pas la même dimension de gameplay que par rapport à Minecraft. Donc, dans Minecraft, vous construisez votre maison pour résister aux monstres qui arrivent la nuit. Eh ben, il n'y a pas de monstres dans Minetest. Enfin, dans le jeu par défaut, non. Après, il y a des modes, vous pouvez rajouter des choses. Ça se construit aussi. Voilà. Donc il est beaucoup plus performant, mais il est beaucoup moins connu. Donc c'est peut-être dû à un manque d'originalité dans le gameplay et dans le fait qu'il a été créé après Minecraft. Voilà, Minecraft est arrivé. Ensuite, on s'est dit, ah, ça c'est génial, on va créer un jeu, on va créer le même en libre. Ouais, mais tout le monde, il joue déjà à Minecraft, ils vont pas jouer à Minetest. Donc pas jouer à la copie, quoi. Voilà, donc c'est un peu un problème. Ensuite, je vais vous présenter Zero AD, voilà, qui est un jeu de stratégie temps réel très proche de la réalité historique. Bon, quand je dis ça, c'est pas forcément vrai. Il y a des historiens qui m'engueulent quand je dis ça, mais c'est pas grave. Enfin, il y a des unités qui sont nues alors qu'elles devraient pas l'être, des choses comme ça. Les armures sont pas les bonnes, c'est inadmissible. Voilà, donc on en est à l'Alpha 17 sur 0AD, donc ça veut dire que la version 1 sortira un jour, oui, peut-être dans 10 ans. Enfin non, ça fait plus ou moins 10 ans qu'ils bossent dessus. Donc le jeu est un... C'est comme Heard, on l'attend toujours. Voilà. Donc c'est un jeu qui est très proche de la réalité historique, ce qui est pas du tout connu, en dehors des libristes et des gens qui jouent à ce genre de jeu, quoi. C'est assez peu connu. Il y a quelques défauts dans 0AD, notamment sur les intelligences artificielles et sur le système de déplacement qui se pose problème. On travaille dessus, mais c'est un peu compliqué. Voilà. Donc on joue, si mes souvenirs sont bons, on a à disposition toutes les civilisations avant notre ère, donc avant l'an 0. C'est pour ça que c'est 0AD. Voilà, donc on a toutes les civilisations possibles et inimaginables. Le problème, pourquoi 0AD est pas connu, c'est parce qu'il est sorti après Age of Empires. Là, du coup, c'est un peu tard. Au niveau des performances graphiques, c'est même meilleur que Age of Empires parce que le moteur, ils le font évoluer, ils l'ont créé eux-mêmes, donc ils font avancer le moteur. Ils sont assez bons là-dessus. Voilà. Mais c'est quand même toujours en retard. Le jeu est sorti 6 ans trop tard. Enfin, il n'est même pas encore sorti. Pour être précis. Voilà. Je vais vous présenter autre chose. Je profite de cette conférence pour faire un gros poutou à John Carmack. Voilà, on t'aime tous. Merci à lui. Alors, John Carmack, c'est l'un des cofondateurs de ID Software, qui a développé le moteur ID Tech, et qui a aussi permis la libération du code source d'ID Tech, donc qui est le moteur de jeu de Doom, de Quake, dans un certain nombre de jeux. Donc là, vous voyez Doom 1, si mes souvenirs sont bons, enfin, je crois. Oui, c'est ça. Voilà. Donc en fait, tous les moteurs de jeux qui ont été créés par ID Tech ont été libérés une fois qu'ils sont devenus rentables. Enfin, une fois qu'ils en ont vendu suffisamment pour revenir sur leur investissement, ils ont libéré le code source. Voilà. Donc, on fait un gros poutou à John Carmack pour le remercier. Voilà. Alors, donc, il y a de nombreux jeux qui utilisent le moteur ou un de ses forks. Fork, pardon, excusez-moi. Désolé. Donc vous avez Open Arena, Nexwiz, Warsaw, Tremulous, et aussi donc ce sont que des FPS shooting rapide type Quake ou Doom. Alors on tire vite sur tout le monde. Mais vous avez aussi d'autres jeux, donc notamment UFO Alien Invasion, qui est un jeu de stratégie tour par tour, dans basé sur sur XCOM. Voilà, sur XCOM, je sais pas si vous connaissez la série des jeux XCOM. Il y a des aliens qui arrivent sur Terre et il y a les Marines qui les tuent. Et vous jouez les Marines. Voilà. Mais du coup, UFO Alien Invasion est un jeu de stratégie tour par tour vu du dessus et ça utilise le moteur Quake 2. Donc, qui est un dérivé du moteur ID Tech. Donc, on peut tout faire ce qu'on veut avec un moteur de FPS. C'est génial. Voilà. Alors, je vais maintenant vous... Oui, donc, on fait même pas forcément des FPS. Voilà, c'est exactement ce que je voulais dire. Maintenant, je vais vous parler des autres, de tous les autres jeux qui sont des copies ou des clones. Voilà, il y en a un paquet. Donc là, j'en ai cité deux. Donc, il y a Super Tux Kart qui est un clone. Non, c'est un clone, s'il te plaît, comme. Dis pas de bêtises. Oui, mais Warmix, non, il existait il y a 5 ans. Ouais, mais c'est Warmix quand même, je l'aime, c'est dans mon cœur, Warmix. C'est pas de ma faute. Voilà, donc vous avez Super Tux Kart qui est un clone de Super Mario Kart. Vous avez Warmix qui n'est plus un clone de Worms. Et si vous voulez la liste complète des clones de jeux vidéo open source, allez-y, hein, il y en a plein. Il n'y en a pas beaucoup qui sont vivants, mais il y en a beaucoup. J'ai regardé la liste, on peut scroller pendant 10 minutes devant toute la liste, donc ça fait quand même pas mal de monde. Voilà, c'est un peu toujours le même problème, c'est que le jeu sort, il devient populaire, donc c'est même à peu près un an, hein. Quand il devient populaire, on dit « Ouais, on va faire un clone libre, ça va être génial !» Le problème, c'est que les gars, ils ont mis déjà 2 ans à le coder en propriétaire, en étant payés à temps plein, et nous, on est sur notre temps libre, on fait du libre, on n'est pas payé. Du coup, on met encore 6 ans à sortir de la copie. Puis, au bout de 6 ans, la version du jeu s'est améliorée, il y a des nouveaux moteurs, c'est plus joli, du coup, le jeu sort, mais il est dépassé techniquement. Les moteurs graphiques sont plus du tout bons, c'est plus du tout la même chose, et c'est qu'un clone. Ah, c'est toujours le même jeu. On vous présente la nouvelle version de Quake. Oh mon Dieu, c'est le même. Voilà. C'est un peu triste, et je trouve que c'est un peu un problème quand faut pas que le jeu vidéo libre essaye de cloner des blockbusters. Voilà. Déjà que l'industrie du jeu vidéo se casse les dents en le faisant, il manquerait plus que nous, les gens qui font du jeu vidéo libre, on le fasse aussi, qu'on se casse encore les dents. Voilà. Du coup, je pense, et je l'affirme, que l'avenir du jeu vidéo libre, c'est le jeu vidéo indépendant. Alors, pourquoi? Donc là, la vidéo, je vous présente quelques jeux vidéo indépendants que je connais bien. Enfin, bon, un que je connais très bien, mais je le dirai pas. C'est moi qui l'ai fait. Oui, regardez, c'est beau. Donc, les jeux vidéo indépendants, récemment, ont eu un gros succès. Donc, vous devez le savoir, parce que, par exemple, Minecraft a rapporté des millions de dollars et s'est fait racheter par Microsoft. A rapporté encore plus d'argent en étant racheté par Microsoft qu'avant. Voilà. Donc c'est les jeux vidéo indépendants un gros succès et c'est des jeux vidéo qui sont faits par 4 gars dans une cave. Les graphismes sont pas forcément super jolis. Hein, on peut faire ça nous aussi. Voilà. Donc je tease une prochaine conférence aussi là, mais je le dis pas. Techniquement, les gens qui font du libre peuvent arriver à faire un jeu vidéo indépendant. On a les mêmes ressources que les gens qui font des jeux vidéo indépendants, donc pourquoi pas. Voilà. Bon, on essaye aussi de les vendre. Enfin, on aimerait bien faire de l'argent avec, ça serait sympa qu'on arrive à vendre des jeux vidéo. Parce que maintenant, les gens sont prêts à acheter des jeux vidéo tout moches avec un gameplay original. Donc on peut peut-être arriver à vendre nos jeux vidéo libres. On essaye de les vendre. C'est pour ça que la prochaine partie, je vais plus vous parler de problèmes de vente de jeux vidéo libres. Je vous préviens tout de suite, c'est pas grave. Voilà, donc on veut tous la gloire, le succès, la coque et les putes, hein, ça c'est clair. Oui, évidemment. Je fais pas ça pour le, je fais ça pour l'argent avant tout. Hein. Je fais pas ça pour la liberté, l'échange de savoir, tout ça. Donc je pense que ça a des chances de succès parce que donc il y a moins d'ambition, c'est plus rapide à coder et ça marche. Il y a un marché, il y a des gens qui achètent des jeux vidéo moches. Donc allons-y. Voilà. Donc les libristes sont intéressés évidemment par ça, hein, on est tous intéressés. On a peut-être plus de chances de succès, quoique, parce qu'au final, le marché du jeu vidéo indépendant, c'est un peu saturé, il y a un peu trop de monde. Mais bon, peut-être arriver à s'en sortir. Avec un bon jeu, peut-être qu'on peut y arriver. 2048 a réussi, donc bon, on peut y arriver. Donc, les problèmes du jeu vidéo libre, et je vais plus vous parler des problèmes que vous aurez si vous voulez vendre un jeu vidéo libre. Voilà. Donc, il y a plein de questions qu'il faut se poser. Donc, le modèle économique. Comment vous pouvez vendre un jeu vidéo dont les sources sont disponibles et les ressources aussi? Comment vous faites? Parce que, par exemple, j'ai un jeu vidéo, je clone le dépôt Git, c'est bon, je lance la compile et j'ai mon jeu, j'ai même pas besoin de le payer. Donc, comment faire pour persuader les gens qu'il faut qu'ils le payent? Voilà. Donc, vous avez différentes façons de vous rémunérer là-dessus. Vous pouvez faire de la pub dans votre appli. Mais vous êtes un méchant à ce moment-là, parce que vous vendez les informations sur vos utilisateurs. Voilà, vous pouvez faire de la vente de binaires, donc vous pouvez faire vendre le fait d'avoir compilé le jeu. C'est quelque chose qui marche, il y a des gens qui ont essayé. Il y a News of Adventure qui a tenté de se vendre comme ça à une époque, qui maintenant est passé en free-to-play. Okay. Allez-y, téléchargez-le, il n'y a pas de problème. De toute façon, il a fait 3 ventes, donc bon, voilà. Vous pouvez faire par abonnement, donc si vous avez un jeu en réseau, vous pouvez vendre l'accès au serveur. Ça marche assez bien. Il y a quelques jeux qui ont essayé de faire ça, si mes souvenirs sont bons. Ça n'a pas forcément super bien marché non plus, mais bon. Voilà, vous pouvez faire des micro-paiements dans l'application. Voilà, vous avez tout un système de ce que vous pouvez faire si vous voulez vendre un jeu vidéo libre. Personne n'a jamais vraiment réussi, sauf 2048 qui a réussi, si mes souvenirs sont bons, à faire $600 sur son compte Bitcoin. Voilà, donc faut voir jusqu'où on peut aller sur le modèle économique. Comment vous diffusez votre jeu? Comment vous faites pour que les gens jouent à votre jeu? Parce que c'est quand même le but premier quand on crée un jeu vidéo, hein, c'est de diffuser son jeu vidéo. Vous pouvez passer par les stores, donc tout ce qui est Steam, Play Store, Apple Store, Amazon Store aussi. Je sais pas s'il y a des gens qui achètent sur Amazon. Voilà. Donc vous pouvez utiliser tout ça pour essayer de vendre votre jeu, mais le problème c'est qu'il va falloir payer avant de vendre, puis après aussi. Donc vous allez plus ou moins vous faire tondre la laine sur le dos par les gens qui contrôlent ces stores. C'est pas forcément une bonne chose. Vous pouvez diffuser le jeu sur votre site web. Minecraft fonctionne comme ça, donc pourquoi pas. Voilà. Vous pouvez aussi être inclus dans les dépôts des distributions. Le problème c'est que comment on fait pour vendre un jeu qui est dans un dépôt? Voilà. Donc il faut que le modèle économique soit adapté au fait que vous soyez présent dans les dépôts des distributions. Il y a aussi, j'ai pas assez de thunes pour payer mes stickers. Si je veux que les gens jouent à mon jeu, il faut qu'ils le connaissent. Donc, il faut que je distribue des flyers, il faut que j'aille à des conférences, il faut que je fasse plein de choses. Donc, c'est comment faire, faut trouver un moyen de faire de la pub à votre jeu. Et il y a aussi un problème qui se pose plus particulièrement pour le jeu vidéo libre, c'est si j'ai un type qui vient, qui m'a fait toute ma pile réseau. Et moi, je veux vendre mon jeu à la fin. Peut-être que le gars, il va pas être d'accord. Peut-être qu'il va vouloir sa part. Peut-être qu'il va dire non. Peut-être que après que je lui ai pas redistribué un peu d'argent, il va me faire de la mauvaise pub. Voilà. Donc il faut que vous soyez aussi assez clair avec les gens qui contribuent sur votre code, que votre objectif c'est de le vendre à la fin du jeu. Voilà. Donc il faut qu'ils sachent que s'ils veulent toucher des bénéfices, s'ils veulent pas toucher des bénéfices, ils font ça pour la gloire ou pas. Voilà. Faut en discuter avec les gens quand on commence à bosser sur là-dessus. Voilà. Donc, devant tous ces problèmes, il y a plusieurs initiatives qui se sont créées, plusieurs idées qui ont commencé à émerger. On s'est dit que ce serait bien qu'on trouve des réponses à tout ça, quand même. Voilà. Donc, il y a l'association LANPOWER. Je ne sais pas si vous connaissez LANPOWER. C'est une association qui fait des LAN près de Rennes, qui organise des LAN, et qui, accessoirement, a un de ses membres, que j'appellerais PPQR ici, qui crée des lives, et des lives CD et des lives USB. Voilà, donc pour diffuser des jeux vidéo libres. Donc voilà, c'est une distribution Linux, vous la branchez sur votre PC, ça boot et vous avez plein de jeux dessus. Voilà. Donc et en plus, il fait de la vente. Donc il redistribue une partie des bénéfices de la vente des CD qui est nulle pour l'instant aux jeux à qui sont présents dans le CD. Voilà. Donc d'un point de vue technique, donc ça assure un peu de pub pour votre jeu parce qu'ils font de la pub pour leur CD. Donc ils font de la pub pour vous. Et donc, si vous voulez tout savoir, c'est utiliser la distribution Diab, qui est un héritier de Linux Console, qui était une distribution à la base créée pour faire un noyau Linux avec des émulateurs à la base, donc pour pouvoir jouer à des jeux vidéo en live CD sur des émulateurs. Voilà. Donc, ils assurent un peu de pub pour votre jeu. Bon, à la base, je voulais que Michael Bay vienne pour faire des explosions, mais il n'a pas voulu. Voilà. L'initiative Libre Game, à laquelle j'ai contribué à la créer. Donc c'est plus ou moins réussir à faire plein de choses pour les gens qui veulent développer des jeux vidéo libres. Donc essayer d'étudier les besoins et les modèles économiques viables. Voilà. C'est aussi donc mutualiser les coûts. Donc plutôt que de payer 15 serveurs pour installer son site web, en payer qu'un seul et mettre tous les sites web dessus. Voilà, donc on essaye de regrouper les développeurs de jeux vidéo libres pour éviter qu'on paye tout le temps, payer une seule fois les accès au store, les clés d'accès pour les stores, des apps d'application, voilà, qu'on fasse des choses un peu tous ensemble. Donc c'est aussi fédérer la communauté pour qu'on s'entraîne un peu. Parce que je sais pas si vous êtes au courant, mais le gros problème des jeux vidéo libres, c'est que y a pas de dessinateur. Il n'y a pas de sound designer, il n'y a pas de game designer, il n'y a pas de level designer, il n'y a que des développeurs, ou presque. Donc si on peut arriver à en choper deux par la main, deux types qui font du dessin pour tout le monde, ça nous va bien. Bon, alors, ils sont un peu plus de deux quand même, les gens qui font du dessin pour des jeux vidéo libres, il y a un peu plus de monde que ça. Aussi, trouver la meilleure façon de rémunérer, enfin de vendre et de rémunérer les développeurs après la vente de leur jeu. Mais il y a un petit problème, c'est que ça c'est des objectifs. Voilà, c'est plus ou moins ce qu'on veut faire. Pour l'instant, voilà, on est 4 types sur un wiki qui a pas bougé depuis 6 mois. Voilà, mais on va arriver à lancer ça. C'est un projet qui tient toujours, qui tourne toujours. Donc on va essayer de redynamiser tout ça et d'avancer un peu sur le jeu vidéo libre et sur comment faire pour en créer. Donc maintenant, je vais vous parler de comment vous pouvez faire si vous voulez créer un jeu vidéo libre. Donc, dans un premier temps, ne le faites surtout pas. Je vous le déconseille. Parce que ça va prendre longtemps, dans tous les cas. Même si vous faites un petit jeu, ça va prendre des années. Voilà. Donc ne le faites pas. Ensuite, ce qu'il vous faut, évidemment, c'est des choses absolument nécessaires, c'est savoir coder. C'est une bonne chose. Enfin, si vous pouvez tenter d'utiliser des moteurs ou des game makers, des choses pas très jolies, qui font des choses n'importe comment. Il y a des jeux qui se sont vendus comme ça. Ils sont plein de bugs, mais ça marche. Voilà. Il faut savoir coder, il faut savoir dessiner, mais c'est quand même pratique quand c'est quand même pas trop trop moche. Et il faut savoir créer les règles d'un jeu. Ça, c'est vraiment compliqué. Et ou alors, il faut réunir une équipe qui sait faire tout ça. Voilà. Donc c'est pour ça que c'est compliqué de créer un jeu, je vous le dis. Voilà. Mais pour tout ça, il y a des petites choses qui peuvent vous aider. Donc notamment, vous pouvez aller voir le tag jeu libre ou game dev sur Linux.fr, où vous aurez plein d'articles sur des gens qui créent des jeux vidéo libres en français. Voilà. Donc notamment Akagoria que vous avez vu, Cat Challenger que vous avez vu aussi, voilà. Il y a Ned Elemaki que vous avez vu aussi, voilà. Il y a plein de ressources sur ces jeux là-dessus, sur ce... Non, on est gentil. Enfin, la partie jeux vidéo libre, c'est cool. On se tape pas dessus. On est déjà pas assez nombreux pour pouvoir troller, donc bon. Ensuite, vous avez le Shiny IRC jeux libres, où là, on troll pour de vrai. Hein. Donc c'est sur Finat, c'est le Shiny IRC qui est relié au site jeuxlibres.net, où vous avez plus ou moins l'ensemble des développeurs de jeux vidéo libres francophones qui sont là. Oui, on est 20. Les bons jours. Les jours où il y a beaucoup de monde, on est 20 personnes. Voilà. Il y a d'autres sources anglophones, donc vous avez Libre Game Wiki, dont je vous ai parlé tout à l'heure pour les jeux vidéo, mais aussi pour d'autres sources. Vous avez la planète Free Game Dev, et aussi le site Free Game Dev, qui est un site qui regroupe donc des développeurs de jeux vidéo libres. Mais là, la planète, ça regroupe un ensemble de blogs assez intéressants à lire. Il y a souvent des articles assez sympathiques. Il y a DeviantArt. De temps en temps, vous pouvez arriver à attraper un artiste. Si vous l'arrivez à attraper, gardez-le. Hein. Nourrissez-le 3 fois par jour. Oubliez pas de lui donner à jouer aussi de temps en temps, parce que sinon il déprime. Voilà. Et donc vous avez OpenGenArt pour aussi d'autres sources, donc des sprites déjà faits, si vous voulez les récupérer pour faire des petites choses. Et j'ai fini... Bon, vous avez Free Game Dev. Et j'ai fini beaucoup trop tôt. Je m'en excuse. Je suis confus. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? Oui. C'est aussi un pourquoi pas un store libre pour le micro. C'est aussi un projet. Enfin, ce qu'on a plus envisagé, c'est un humble indie bundle libre. Voilà, un humble bundle libre, libre bundle, quelque chose comme ça. Voilà, c'est aussi ce qui est envisagé effectivement. Ça permet de faire un peu de com, mais voilà. Le gros problème actuellement, c'est qu'on n'est déjà pas assez nombreux pour faire des jeux, donc on est encore moins nombreux pour faire de la com. Et un bundle, ça marche quand on fait beaucoup de communication. C'est comme les projets Kickstarter, si vous voulez en faire, allez-y. Hein. Par contre, vous passerez 6 mois de votre vie à faire votre Kickstarter, à préparer, puis 6 mois à envoyer tous les cadeaux. Donc, c'est pas forcément... C'est une autre organisation, et c'est plus pour des publicitaires et des communicants que pour des développeurs. Voilà. D'autres questions ? Yeah, Zonotic, c'est, ah oui, c'est encore des aliens contre des mines, si mes souvenirs sont bons, non? Mais ça, c'est si on voulait étudier l'histoire des FPS libres, ça part dans tous les sens. Ah non, ils ont fait un choix technique que j'aime pas, je m'en vais. Ou ah non, le nom n'est pas disponible, on va changer. Là, c'est l'arbre des moteurs et des jeux qui dépendent des moteurs et des ressources qu'on s'est piquées entre soi. C'est assez intéressant à étudier. Je pense que ça serait très long aussi à faire, mais ça peut être très drôle à voir ce que ça donne. Totalement donation, donc c'est Bitcoin et PayPal, si mes souvenirs sont bons. Et ce qui est aussi intéressant, c'est qu'il y a un... 2048 s'est fait beaucoup copier, et en fait, ils ont vu que c'était un jeu libre, ils ont récupéré les sources et ils ont laissé les adresses Bitcoin et PayPal dans les copies. Donc même les copies qui étaient conservaient le mode donation et donnaient aux développeurs d'origine. Enfin, dans certaines copies, on fait ça. En tout cas. Oui, a priori, oui. C'est juste après.
C'est quoi, c'est?
Ah, bah, je sais pas du tout, mais normalement, oui. Mais, ouais, c'est. Excusez-moi, c'est en partie de ma faute. Mais a priori, elle vient juste après, oui. Bah, si on conserve le code source libre et que moi, tu sais, moi, si un jour on me dit on achète ton jeu, on garde le code source en libre, le nom reste libre, tout reste libre, et en plus t'es payé pour faire ton jeu, moi je dis oui. Voilà, après je dis bon courage à la société pour arriver à continuer à me financer, mais c'est pas mon problème. Moi, j'ai un emploi, je suis content. Mais voilà, le fait de vivre du jeu vidéo libre, c'est un doux rêve. On a tous, on là c'est sur le channel IRC, on est tous. Un jour, on vendra des jeux et on sera riche. On aura des châteaux en Espagne et des Maserati. Un jour, mais voilà. Pour l'instant, on n'a rien du tout. En fait, ça peut se vendre si on dit pas que c'est libre. Voilà, le truc c'est que je vais faire une caricature, le gamer de base, lui, il sait pas ce que c'est qu'un code source, qu'un moteur de jeu, et voilà. Enfin, voilà, il s'en fiche. Lui, ce qu'il veut, c'est jouer. Voilà, donc s'il sait pas que c'est libre, il sait pas que s'il va sur un site web qui copie une ligne de code, qu'il installe l'ensemble des systèmes de compilation, il peut avoir le jeu gratuitement, il va pas le faire. Je ne vois pas du tout des jeux d'eau tels que tu parles. Je suis désolé. Voilà. J'ai pas. Malheureusement, je ne joue plus assez. C'est un vrai problème. Question, non? Je vais peut-être passer la place à Koum. Merci.